Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
8 milliards de voisins, c'est maintenant.
8 milliards de voisins, avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 8 milliards de voisins et de voisines. Depuis hier, nous sommes officiellement 8 milliards d'habitants sur Terre. L'occasion d'interroger la démographie mondiale. Sommes-nous trop nombreux? L'humanité a été multipliée par 8 en 2 siècles et nous devrions atteindre un pic de plus de 10 milliards et demi vers 2080, 2100. Cela semble si loin. Aujourd'hui, suite de notre semaine spéciale, sommes-nous trop nombreux pour manger à notre faim? Une urgence quotidienne pour un habitant sur deux en Afrique et un habitant sur 10 dans le monde. La sécurité alimentaire, après des années de progrès, est en net recul et la faim est de retour, pas de doute. Les 600 millions d'agriculteurs sur la planète sont-ils capables de nourrir 8 milliards de personnes contre un revenu décent? Et plus précisément, l'Afrique peut-elle nourrir l'Afrique? Alors que la plupart des pays du continent importent plus de nourriture qu'ils n'en produisent à l'heure actuelle. Alors bien sûr, nous parlerons de l'impact des conflits, du réchauffement climatique et des règles du commerce mondial. Sans oublier les politiques agricoles, ou plutôt l'absence de politiques agricoles. Des céréales, des légumes, des fruits, un peu de viande ou du poisson pour tout le monde. Est-ce si simple à l'échelle de la planète? Quels sont les pays qui montrent la voie? On en discute dans quelques instants avec nos invités.
8 milliards de voisins.
Et de voisines.
8 milliards de voisins. On est ensemble.
Sylvie Brunel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes géographe à l'université Paris-Sorbonne. Vous avez notamment publié « Pourquoi les paysans vont sauver le monde ?» chez Buchet-Chastel. Il faudra nous convaincre, hein, nous donner de l'espoir. Olosib, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conseiller régional senior pour le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, le PAM. Merci d'être en liaison avec nous de Dakar et en direct dans le studio de RFI Mandincan Full Full Day. Et je rappelle que votre organisation, le PAM, s'est vue décerner le prix Nobel de la paix en 2020, en pleine pandémie de Covid. Valentin Brochard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargé de plaidoyer souveraineté alimentaire au CCFD Terre Solidaire, ONG bien connue de nos auditeurs. Nous serons aussi en ligne avec Lucie Mouillot, correspondante au Rwanda, un pays où, à la différence du voisin congolais, l'espace est si réduit que les parcelles agricoles manquent, mais pas forcément les solutions.
Bonjour Emmanuel.
Ah salut RFI, j'espère que vous allez bien.
8 milliards de voisins.
Oui, allô ?
33 7 64 45 51 41.
8 milliards de voisins, c'est désormais notre titre d'émission du lundi au vendredi pour se parler tous ensemble. Et tout de suite, nous donnons la parole à un auditeur au 33 7 64 45 51 41. Bonjour Dimitri.
Bonjour Emmanuel, bonjour les voisins.
Merci de nous appeler. Vous êtes burkinabé, vous êtes étudiant, je crois, à Clermont-Ferrand.
C'est ça.
Ouais. Et vous souhaitez nous parler de la situation extrêmement tendue au Burkina Faso à l'heure actuelle, notamment au nord, et de l'insécurité alimentaire.
Effectivement. Depuis 2016, le Burkina Faso vit une situation sécuritaire précaire du fait du terrorisme dans le Sahel. Donc, bien avant cette période, on était confronté à un déficit de production alimentaire. On n'avait pas atteint l'autosuffisance alimentaire. Mais depuis quelques années, nous assistons à un blocus imposé par les terroristes dans certaines villes du pays, dont le cas le plus emblématique est celui de la ville de Djibo, oui, à 200 km au nord du pays. Donc la conséquence de ce blocus, c'est que les populations sont empêchées d'aller dans leurs fermes. Ils ne peuvent ainsi donc pas produire les céréales nécessaires à leur alimentation, notamment le riz, le mil, le sorgho. Et aussi le bétail n'a plus accès au pâturage. Donc la conséquence, c'est que les éleveurs aussi tombent dans cette situation d'insécurité alimentaire. Et la situation s'est encore empirée quand les convois de ravitaillement ont commencé à être la cible d'attaques terroristes. Donc la dernière a eu lieu le 26 septembre à Gaskindé, avec la destruction de plus de 200 camions chargés de nourriture.
Ça veut dire que dans la mesure où la principale route d'approvisionnement est devenue extrêmement dangereuse, il y a aussi des ponts qui ont été dynamités, des attaques meurtrières donc contre les convois de ravitaillement de cette grande ville du nord du Burkina par les djihadistes. Ça veut dire que physiquement, là, aujourd'hui, dans cette partie du Burkina, la nourriture n'est plus disponible en réalité pour vous, Dimitri. C'est ce que vous souhaitez dire?
Oui, il y a certains témoignages qui ont fait état de personnes qui sont mortes de faim, notamment des personnes âgées et des enfants.
Merci beaucoup, Dimitri, d'avoir démarré cette émission avec une situation extrêmement préoccupante et concrète. Merci. Bonne journée à vous, Dimitri.
Merci.
Et vous continuez à nous appeler au 33 7 64 45 51 41. Au LOCIB du programme alimentaire mondial, comment, à partir de votre agence des Nations Unies, comment vous estimez la situation à l'heure actuelle pour l'Afrique qui vit une nouvelle grosse crise alimentaire, que ce soit dans la Corne de l'Afrique, mais aussi dans certaines zones du Sahel, comme le soulignait notre auditeur Dimitri?
Le Dimitri, je pense que ce que Dimitri a dit est emblématique de l'ensemble du continent. On est dans une situation aujourd'hui où beaucoup de dans la région, si vous prenez l'Afrique de l'Ouest, on parle maintenant de 43 millions de personnes qui sont plus ou moins dans les conditions que Dimitri présente, des ménages, des personnes qui sont coupées des marchés, des personnes qui sont affectées par la hausse des prix. Ces personnes qui sont déplacées en milliers. En Afrique de l'Ouest, nous en avons à ce jour plus de 7 millions de personnes. Et toutes ces personnes-là, aujourd'hui, vont dépendre principalement de l'assistance humanitaire, de l'aide humanitaire, de différents programmes qui sont mis en place. Aussi, je pense qu'il est important de voir que la situation globale, avec l'inflation, la hausse excessive des prix, le coût du transport qui est élevé, crée une situation qui affecte aussi bien les personnes qui dépendent directement de l'aide ou de l'assistance, mais aussi tous ces agriculteurs qui aujourd'hui n'ont pas accès aux intrants comme les engrais, ce qui va avoir tendance à faire perdurer le problème.
Alors, revenons à ces situations où la nourriture n'est pas physiquement disponible, comme certaines régions du Sahel, quand les gens sont coupés des marchés parce que, du fait de l'insécurité notamment, ou de la désorganisation, en tout cas des filières agricoles. Quelle est la situation d'urgence que vit la Corne de l'Afrique à l'heure actuelle? Est-ce que vous pouvez nous rappeler la situation et surtout, quelle est la situation pour le PAM, en fait?
Alors, pour le PAM, nous travaillons à la fois sur la Corne de l'Afrique et sur le Sahel, et sur ces deux parties du continent africain où nous travaillons, la situation actuelle est extrêmement difficile. Au total, si je prends ne serait-ce que l'exemple du Sahel, où nous sommes actuellement, sur les 12 millions de personnes qui aujourd'hui ne peuvent pas manger à leur faim, vous aurez une situation comme celle de Djibo, qui vient d'être expliquée par Dimitri, mais vous avez aussi cette situation qui est un peu courante. On a Titao, on a plein d'autres villes, au Nigeria, en
au
Somalie.
Au Kenya, au Soudan du Sud, le Kenya qui enchaîne les mauvaises saisons sans pluie.
Exactement, des pluies qui sont erratiques, qui sont de plus en plus rares, et qui font que dans ces zones-là, aujourd'hui, l'accès à la nourriture devient difficile. Parce que les groupes armés sont là, ils coupent les routes et empêchent les approvisionnements des marchés, parce qu'aussi il y a des facteurs climatiques comme les inondations cette année pour l'Afrique de l'Ouest. Si vous prenez l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique de l'Est, on a eu beaucoup d'inondations cette année qui ont coupé les routes d'approvisionnement, qui ont détruit des champs. Donc tous ces facteurs rendent la situation alimentaire extrêmement difficile pour les populations qui sont de plus en plus nombreuses à souffrir de la faim.
Ça veut dire que l'objectif fin zéro d'ici 2030 pour les Nations Unies, on oublie complètement?
On n'oublie pas. C'est un effort collectif, c'est un effort des Nations Unies, c'est un effort des gouvernements, c'est un effort de la société privée, de la société civile, c'est un effort des entreprises privées, c'est un effort collectif pour pouvoir atteindre la fin zéro. On a des exemples de pays qui font
alors
des efforts.
Alors, on va bien sûr en parler tout au long de cette émission, Holosib. Vous restez en liaison avec nous, surtout, vous prenez la parole à partir du studio de RFI Dakar quand vous le souhaitez. Sylvie Brunel, là, on est actuellement à la troisième crise alimentaire de 2008. Ça recommence?
non seulement ça recommence, mais ça se dégrade. Ça se dégrade parce qu'il y a eu la conjonction d'un certain nombre de facteurs qui sont venus se coaliser. C'est bien sûr la pandémie. On a entendu en Afrique beaucoup de populations dire « nous préférons le virus à la fin » parce que l'arrêt des circuits de commercialisation, les confinements, toutes les difficultés que cela a entraînées ont augmenté déjà le nombre de personnes souffrant de la faim. C'est d'ailleurs pour ça que le PAM a eu le prix Nobel de la paix, vous l'avez dit, en novembre 2020. Il y a eu ensuite tout le phénomène, bien sûr, de la guerre en Ukraine. Il faut se souvenir qu'un grand nombre de pays africains n'ont pas voté les sanctions contre Poutine parce qu'en réalité, ils étaient dépendants des importations de blé, de maïs, d'huile, d'engrais.
Le Sénégal dépendant à 60% du blé ukrainien ou russe,
l'Érythrée, la Somalie, voilà. Oui, tout à fait. Donc, ça a été une très grande précarité pour approvisionner les villes, puisque vous le savez, un certain nombre de bateaux n'ont plus pu fonctionner, ne s'arrêtent plus dans les ports africains. Or, les mégalopoles africaines qui sont en situation littorale sont dépendantes en grande partie des importations. Et puis, la troisième raison, c'est bien sûr l'inflation qui a fait flamber le prix des produits à la fois dans les campagnes et dans les villes, parce qu'il ne faut pas oublier que même le plus modeste foyer rural a des besoins monétaires. Donc, tout ça se coalise sur fond de pression démographique, de dégradation des territoires liés, bien sûr, à ce changement climatique qu'on observe très bien au Burkina, avec du coup des pluies qui sont erratiques, on ne sait pas quand semer. Et puis, il y a aussi la pression parasitaire. N'oubliez pas que dans toute la partie est de l'Afrique, il y a eu les criquets. Donc, tout ça fait que c'est très dur. La guerre, on a parlé du Burkina, la guerre aussi, les tensions entre les éleveurs et les agriculteurs fait que le point de contact entre ces pasteurs qui ont besoin des territoires et les agriculteurs qui ont besoin, eux, de stabilité, eh bien, ça fait des situations conflictuelles partout. Surtout que, vous le savez, la terre en Afrique, eh bien, son statut est extrêmement, souvent indécis. On ne sait pas à qui appartient la terre. Il y a des tensions autour du foncier.
Mais alors finalement, se poser la question, 8 milliards de voisins, sommes-nous trop nombreux pour manger à notre faim ? Pendant des années, on avait cette idée dans le grand public que la faim venait de la surpopulation. On avait des générations entières qui avaient été éduquées avec, vous vous souvenez, pense aux petits Chinois, il y avait cette peur de la Chine trop peuplée. Aujourd'hui, évidemment, la Chine n'est même pas au remplacement au seuil de remplacement des générations avec moins de 2 enfants par femme. L'Inde, qui devrait dépasser la Chine en nombre d'habitants, voit aussi sa natalité baisser progressivement. Mais est-ce que c'est judicieux de se poser la question, 8 milliards, sommes-nous trop nombreux pour manger à notre faim ? Est-ce que c'est encore aussi une histoire de surpopulation ou pas ? Je vous laisse répondre tous les trois, d'ailleurs, Sylvie Brunel, Valentin Brochard et Olossib. Ouais. Oh, Valentin Brochard, allez-y.
Non, actuellement, le problème de la faim, enfin, il faut casser un mythe, on n'est plus dans les grandes famines par carence, hors situation humanitaire particulièrement complexe, on parlait de la Corne de l'Afrique, on peut parler du Yémen. Actuellement, au niveau mondial, on produit suffisamment pour nourrir la population mondiale. On produit environ 6000 calories par habitant par jour. Le seuil pour avoir une alimentation saine et une vie équilibrée selon l'Organisation mondiale de la santé, il est de 2600 calories. Le problème, c'est que cette production, elle n'est pas là où les personnes ont faim, donc elle n'est pas localisée dans les pays qui souffrent d'insécurité alimentaire. Et il y a toute une partie de cette production alimentaire qui est perdue, qui est gaspillée. C'est environ 25% de la production mondiale. Toute une partie qui est transformée en agrocarburant.
Voire plus en Afrique, hein, pour ce qui est des pertes et du gaspillage à partir de la production agricole.
Exactement. On a 15% qui est transformé en agrocarburant. Donc ça fait près de 40% de la production alimentaire mondiale qui n'est pas utilisée pour l'alimentation. Ce qui fait qu'en fait, on a un problème de disponibilité et d'accessibilité. D'accessibilité effectivement physique, on en a parlé avec les conflits, mais aussi d'accessibilité financière. Une grande partie du continent africain, mais aussi de la population d'Amérique latine ou asiatique, n'ont pas accès financièrement à une alimentation saine et diversifiée. Au total, au niveau mondial, c'est 3,1 milliards d'individus qui n'ont pas les moyens de se nourrir convenablement. C'est un problème financier et ce n'est pas un problème de production.
Olossib, on le disait, physiquement, la nourriture est bien présente presque partout dans le monde. Le problème, c'est aussi la capacité des populations à se payer leur alimentation. Et ça, c'est le cas, y compris sur le continent africain, où dans la plupart des pays, à part effectivement cas particuliers, la nourriture est disponible sur les marchés.
Alors, il faut effectivement, si vous parcourez un peu tous les marchés comme nous on le fait régulièrement, on va se rendre compte que dans beaucoup d'endroits du continent, même dans les situations les plus difficiles, vous trouverez de la nourriture sur le marché. Parfois, les prix sont juste pas abordables et que les personnes les plus pauvres ne peuvent pas accéder à cette nourriture sur ces marchés-là. Il y a un autre point qui est extrêmement important, qui est aussi de comprendre un peu comment tout le système alimentaire fonctionne en Afrique. On est sur une situation de production de déficit récurrent dans beaucoup d'endroits du continent. On est aussi sur une situation où une partie de la production est perdue à cause des post-récoltes. Mmh. Et les pertes post-récoltes représentent à peu près 30 à 40 %
C'est-à-dire pertes durant le transport et pendant le stockage aussi.
Le stockage, donc tout ce processus qui permet à la production de pouvoir donc quitter le champ et arriver sur les marchés. On a d'énormes pertes en Afrique liées justement à ces capacités de stockage qui sont limitées, à l'état des routes qui ne permet pas un approvisionnement régulier des marchés. Il y a toutes ces dimensions aussi de la chaîne alimentaire qui est liée à l'urbanisation rapide de la population, qui fait que dans ces zones où la population croît vite, on a du mal à acheminer de la nourriture dans ces villes pour nourrir la population. Et un des points qui a été soulevé tout à l'heure, que nous voyons au quotidien sur le terrain avec les populations avec lesquelles nous travaillons et qui explique en majorité pourquoi on a cette augmentation rapide des personnes en insécurité alimentaire. C'est effectivement ce que nous on appelle les 4C. Les 4C, c'est une conjonction de facteurs qui englobe les conflits, le climat, bien sûr la crise Covid et puis surtout ce qu'on appelle les coûts. Où les coûts, c'est tous ces prix qui sont extrêmement élevés. Si vous prenez une zone comme l'Afrique de l'Ouest, même en situation non-conflit, en situation normale, le coût de la nourriture est 30 à 40 fois plus élevé que le reste du monde. Donc,
pour des revenus qui sont bien inférieurs, évidemment, en Afrique.
Absolument, qui sont bien inférieurs et qui, malheureusement, stagnent compte tenu des difficultés économiques et des manques de programmes de protection sociale qui existent dans les pays.
En réalité, la production de denrées alimentaires, elle augmente sur le continent africain, mais pas du tout assez vite par rapport à la croissance de la démographie de la population.
Absolument. Si vous prenez de façon générale les chiffres qui existent, il faut prendre trois paramètres. La production, d'abord, elle a une croissance qui est faible. La population croît à un rythme de 3-4%. Et vous avez surtout des importations qui, elles, par contre, augmentent pour l'Afrique de l'Ouest sur en moyenne 5% par an. Donc, il y a vraiment un déséquilibre important entre ces trois paramètres qui assurent la disponibilité et l'accès de la nourriture aux populations.
Et bien évidemment, quand vous parlez de 3 à 4% de croissance de la population, on est bien sur le continent africain. À l'échelle du monde, c'est 1%, puisque ça y est, en réalité, c'est 8 milliards de voisins dans le monde. On commence une phase de ralentissement de la population mondiale. L'Afrique consomme 18 kilos d'éléments nutritifs par hectare, contre une moyenne mondiale de 100 kilos. Donc évidemment, il faut interroger les rendements agricoles qui sont inférieurs à ceux des autres régions en développement, notamment l'Asie. Et puis surtout, il faut reparler de cette double peine ou cette triple peine, mais le réchauffement climatique qui se rajoute aux conflits, aux déplacements de population, aux coûts de production. Je voudrais vous lire le message d'Ibrahim qui est à Dosso, au Niger. « Je suis agriculteur, nous dit Ibrahim. Je cultive principalement du mil, mais aussi des feuilles de copteau. Cette année, entre les sécheresses répétées et les inondations, les récoltes n'ont pas été bonnes du tout. Le dérèglement climatique est l'une des principales causes de cette insécurité alimentaire. » Et puis aussi le message d'Amidou qui est à Sar, au Tchad. « Les aliments sont devenus trop chers cette année, surtout les légumes. Avant, on pouvait acheter un bon kilo de tomates pour 400-500 francs CFA, c'est-à-dire à peu près 60-76 centimes d'euros. Aujourd'hui, le prix a doublé. C'est dû aux nombreuses inondations que le Tchad a subies cette année. Les prix grimpent et amplifient l'insécurité alimentaire. Et puis, écoutez aussi le message de ce voisin. Il est dans le nord du Sénégal, à la frontière mauritanienne. Écoutez-le.
Bonjour les auditeurs et les auditrices. Je m'appelle Suleiman Cham. Je suis dans la région de Matam, un village qui s'appelle Sahel. Mon village se trouve au bord du fleuve Sénégal. Vraiment, bon, nous sommes rencontrés à beaucoup de problèmes liés à l'agriculture. Manque d'aménagement de nos terres, manque de subventionnement de nos paysans. Dans les campagnes, il y a beaucoup de bouches à nourrir, plus de 50 bouches dans la famille. Beaucoup de familles dans les campagnes sont liées à la malnutrition, à la faim aussi, manque de sécurité alimentaire Donc, si vraiment, bon, il n'y a pas l'agriculture, vraiment, il y aura vraiment des problèmes. C'est pourquoi aussi, aujourd'hui, nous devons nous regrouper, ou bien nous devons nous organiser, nous les pays africains, ou bien nous qui vivons dans les campagnes, à se retourner dans l'agriculture. Mais l'État aussi doit vraiment nous accompagner dans tout ça.
Merci à vous, Sileymane, pour ce message pertinent de Matam dans le nord du Sénégal. Plus de 50 bouches à nourrir pour sa famille, nous dit Sileymane. Et en même temps, le continent africain a 60% de terres cultivables. Rien n'est perdu d'avance quand même, Sylvie Brunel.
Oui, l'Afrique pourrait devenir le grenier du monde, c'est-à-dire qu'elle a encore beaucoup de terres et surtout beaucoup de forces vives dans les campagnes. Parce que cette jeunesse aujourd'hui qui est condamnée à s'exiler, à partir, eh bien c'est une jeunesse qui a aussi besoin d'espoir, d'avenir pour pouvoir nourrir les villes africaines. Nous sommes confrontés aujourd'hui à une sorte d'incompréhension, de quelque chose qui est très choquant, c'est que ces paysans qui restent encore plus nombreux en Afrique que les urbains, hein, puisque les urbains deviendront plus nombreux à partir de 2030, c'est l'inverse de ce qui se passe dans le reste du monde, où les urbains sont déjà plus nombreux que les ruraux, et bien souvent ces paysans ne sont pas entendus, ils sont oubliés, ils manquent de moyens modernes. Vous savez, ce qu'on appelle en géographie la capacité de charge d'un territoire, ça dépend de ce que vous mettez en œuvre pour permettre à ce territoire de nourrir une population nombreuse. Un hectare de blé en France, c'est 24 000 baguettes. Un hectare de maïs, c'est 25 000 litres de lait. Voyez, donc, alors qu'on se retrouve dans des paysans qui sont extrêmement, doués, le problème, ce n'est pas qu'ils sont incapables, ils sont au contraire extrêmement ingénieux, ils cherchent des moyens, mais ils manquent de moyens. Et la situation va s'aggraver parce qu'aujourd'hui, les prochaines récoltes vont manquer de fertilisants, c'est-à-dire d'engrais. Les engrais azotés qui étaient produits notamment par la Biélorussie, par la Russie, manquent. Et donc ce que nous dit notamment Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, c'est que les risques alimentaires sont devant nous. Et je crois que Valentin Brochard et moi, ce qui nous unit là autour de ce plateau, c'est ce cri d'alerte de dire pensons à ceux qui nous nourrissent. Parce que demain, c'est vrai que jusqu'à présent, nous avons produit assez, mais c'était mal distribué. Il n'est pas certain que nous puissions, dans les 50 ans qui viennent et qui vont être, vous l'avez dit, les 50 ans les plus durs en termes d'explosion démographique, après la population du monde va diminuer, mais il n'est pas certain que nous puissions relever partout le défi alimentaire, parce qu'on voit des dégradations très graves dans un certain nombre de situations, et notamment l'Afrique subsaharienne.
Alors, il faut moderniser l'agriculture en Afrique subsaharienne, mais toute la question est, c'est pas, peut-être pas avec les tracteurs de la Beauce qu'on va installer au Sahel, sur des terres extrêmement fragiles, friables, mais bien sûr, on va en reparler, parce que là, il y a plein de visions différentes et plein de débats différents.
Mais je voudrais quand même juste vous dire qu'il faut pas non... mais il faut pas non plus renvoyer le paysan africain à la pénibilité, à la précarité. Il a aussi...
D'autant plus que les jeunes en Afrique subsaharienne ne veulent plus manier la daba par 40 degrés.
Mais c'est évident. Donc il ne faut pas tenir un discours, vous voyez, de relativisme culturel. Au contraire, les pays africains, il faut qu'ils fassent ce qu'on appelle le saut de grenouille. C'est-à-dire qu'on leur donne accès à ces technologies qui permettent une révolution triplement verte. C'est-à-dire des technologies qui leur permettent de produire de façon sécurisée, sans être dans la précarité.
Alors, vous restez avec nous. On va parler évidemment aussi du commerce mondial. Est-ce qu'il faut changer les règles implacables qui fonctionnent comme une double peine aussi pour les pays les plus pauvres? Sur quelle base élaborer des politiques de souveraineté alimentaire, c'est-à-dire d'autosuffisance, pour que les pays soient moins dépendants de leur importation? Je parle évidemment là du continent africain. Vous pouvez nous envoyer vos messages, les voisins et les voisines, ou poser vos questions au 33 7 64 45 51 41. Oui, Valentin Brochard, bien sûr, je vais vous donner la parole. On verra aussi le cas du Rwanda dans quelques instants. Ce sera juste après cette sensation reggae franco-libanaise et jamaïcaine, About My World. It's a fire burning in a mountain. Nobody seems to care. Smoke is almost getting in the skyway. I tell you now, we've got to be strong.
Strong, strong, strong.
If we don't listen to the wiser,
then what will happen?
Then there'll be no place to hide away.
No hiding place.
About my world.
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 I've got to sing about my world.
Wow! 'Cause if you play with fire, you must get burned. The more you live is the more you learn. Tell it to the boys, tell it to the girl. Tell everyone in this whole wide world. Worship diamond and worship pearl. 'Cause
is what you save, is not what you earn. Tell the whole of them, is say the table have been turned. Come down, Myrna, cause your voice must be heard. Wow!
I'm calling, calling now. Well, it don't matter to she. We've got to protect our life.
Really and truly.
About my world.
About my world.
De voisins et de voisines, bien sûr. Nous sommes en direct sur RFI et aujourd'hui, suite de notre semaine spéciale, sommes-nous trop nombreux pour manger à notre faim ? On en discute avec vous, Sylvie Brunel, géographe, Holosib du PAM, le Programme Alimentaire Mondial, Valentin Brochard de l'ONG CCFD Terre Solidaire. Et tout de suite, direction Kigali avec notre correspondante Lucie Mouillot. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Le Rwanda est l'un des pays du continent africain avec la plus forte densité de population, ce qui pose la question, quelle agriculture pour nourrir tout le monde au pays des mille collines, Lucie ?
Oui, on peut déjà rappeler quelques chiffres. Le Rwanda, l'un des plus petits pays d'Afrique avec une superficie d'environ 26 000 km², accueille près de 13 millions d'habitants. Alors en comparaison, la Guinée enregistre une population plus ou moins équivalente, mais pour un territoire presque 10 fois plus grand. Ce qui fait du Rwanda, comme vous l'avez dit, l'un des pays les plus densément peuplés du continent, avec environ 500 personnes par km². Et la tendance ne risque pas de s'inverser. La population doit encore presque doublé dans le pays d'ici 2050 pour dépasser la barre des 20 millions d'habitants.
Et donc avec une forte densité de population, Lucie Mouillot, il y a une pression sur les terres cultivables pour produire davantage.
C'est vrai, dans un pays comme le Rwanda, où la très grande majorité des habitants vivent de l'agriculture, l'attention sur les terres disponibles est l'une des grandes questions pour la sécurité alimentaire. Face à l'augmentation de la population, les exploitations sont de plus en plus fragmentées et près de 70% des terres cultivées ont une superficie inférieure à 1 hectare. Les ressources naturelles, les forêts, les rivières, les zones vulnérables comme les marais sont mises sous pression pour nourrir une population toujours plus nombreuse. Le manque de disponibilité des terres mène à la dégradation et à l'érosion des sols, d'autant plus vulnérables sur les terrains très vallonnés du pays des mille collines. Alors, malgré près de 50% de terres considérées comme cultivables, aujourd'hui, le PAM, le Programme Alimentaire Mondial, estime que l'insécurité alimentaire touche un cinquième de la population et un tiers des enfants de moins de 5 ans font face à un retard de croissance lié à la malnutrition.
Et pourtant, plusieurs stratégies locales ont été mises en place par les autorités rwandaises face à cette situation démographique et manque de terres.
Oui, notamment la stratégie de la révolution verte, un plan d'intensification de la production soutenu par la Banque mondiale et le FMI, instauré en 2007 et qui priorise 6 cultures, celles du maïs, du blé, des haricots, du riz, des pommes de terre et du manioc. L'objectif, augmenter les rendements en encourageant les agriculteurs à se regrouper en coopératives autour de monocultures, pour passer de production principalement de subsistance à des productions commerciales. En parallèle, des aménagements ont été mis en place pour développer les terres cultivables et éviter leur érosion, comme le terrassement des terrains sur les collines et la revégétalisation. Cette révolution verte a eu un effet positif sur le niveau de production du pays depuis 2007, mais a eu certaines conséquences pour les exploitants, avec des monocultures plus vulnérables aux maladies. D'autres stratégies pour augmenter les capacités de production du pays sont envisagées. Par exemple, cette année, Brazzaville et Kigali ont signé un accord de concession de 12 000 hectares de terres congolaises en faveur du Rwanda.
Mais face à sa démographie importante, presque 4 enfants par femme, un petit peu moins que la moyenne en Afrique subsaharienne, le Rwanda doit quand même transformer son économie.
Oui, le pourcentage de population urbaine dans le pays augmente chaque année. Alors, les autorités espèrent créer de nouveaux emplois dans les villes pour limiter le taux de pauvreté, donc l'insécurité alimentaire, en passant d'une économie où la plupart de la population vit de l'agriculture à une économie de services. C'est l'objectif depuis plusieurs années, notamment avec le développement de différents secteurs comme la finance, les nouvelles technologies ou le tourisme. La capitale Kigali est d'ailleurs devenue l'un des centres de conférences et d'événements principaux de la région d'Afrique de l'Est. Et c'est par cette stratégie que le Rwanda espère se placer dans la liste des pays à revenus moyens d'ici 2035. Mais cela implique, dans ce cas, de continuer à importer massivement des denrées alimentaires qui représentent 17% des importations totales du pays. Le président Paul Kagame a cependant assuré plus tôt cette année que le Rwanda atteindrait l'autosuffisance d'ici 2025.
Oui, 2025, c'est demain. Donc voilà, on peut s'interroger. Merci beaucoup, Lucie Mouillot, d'avoir été en ligne en direct de Kigali. Valentin Brochard de l'ONG CCFD Terre Solidaire, que faut-il penser de la stratégie rwandaise ?
Je pense qu'elle répond à deux enjeux qui sont des enjeux africains et qui sont des enjeux structurels. Le premier, c'est le financement et l'investissement dans l'agriculture. Structurellement et historiquement, l'Afrique n'a pas assez investi dans son agriculture. Et les accords de Maputo de 2008 qui visaient à investir 8% du PIB de chaque pays dans le secteur agricole n'ont pas été respectés. Le deuxième enjeu, en fait, c'est la durabilité et la durabilité des productions, la durabilité du modèle agricole. Et je pense que là-dessus, ce qui est intéressant, c'est d'écouter les organisations de producteurs africaines, des organisations de producteurs rwandaises, mais aussi les dirigeants africains. Il y a une prise de conscience depuis 5-6 ans et encore plus depuis la crise du Covid, qu'il faut faire une transition vers une agriculture qui est plus durable, qui est plus agroécologique sur le sujet. L'EuropA, qui est la principale organisation de producteurs en Afrique de l'Ouest, sont des centaines de millions de producteurs qui sont présentés, en a fait le fer de lance. Et Macky Sall, le président de l'Union européenne, a été très clair de l'Union européenne. Excusez-moi. C'est le président du Sénégal, mais il parlait en tant que président de l'Union africaine. Je suis navré. Le président de l'Union africaine, il y a quelques mois, a été clair là-dessus. L'enjeu pour l'Afrique, c'est d'atteindre sa souveraineté alimentaire. C'est de faire une transition vers une agriculture durable. Macky Sall est, comme vous l'avez dit, le président du Sénégal. Et le Sénégal, là-dessus, a un plan très ambitieux de transition agroécologique, justement pour faire cette transition.
Tout à fait. Et notamment, par exemple, le Sénégal a fait de grands progrès. Voilà, oui. Le riz, sur le riz aussi. Il y a eu vraiment un investissement sur la filière avicole, les poulets. Je ne sais pas si le Sénégal est autosuffisant.
Sur le lait aussi.
Oui,
avec
plus difficile.
C'est-à-dire qu'il faut de la coopération. C'est très important, une coopération internationale, parce que souvent, les techniques manquent pour faire ce bond qui nous permettent d'entrer dans ce qu'on appelle une révolution triplement verte, c'est-à-dire à la fois continuer de produire parce que les enjeux de disponibilité alimentaire restent entiers, faire en sorte que le paysan soit dignement et justement rémunéré pour son travail, parce que ça, c'est le grand drame, c'est là le nerf de la guerre. Comment produire si vous n'êtes pas payé? Et ça, c'est partout, hein, c'est dans tous les pays, pour tous les pays du monde. Et puis, triplement verte, il faut s'occuper de plus en plus de toute la question des sols, de la biodiversité, de la gestion de l'eau. Et cela veut dire que les défis peuvent être relevés. Il ne faut surtout pas penser que cette Afrique qui est dans une situation difficile aujourd'hui ne pourrait pas devenir non seulement productrice, mais beaucoup plus exportatrice de nourriture qu'elle n'est. Il faut aussi savoir que quand un pays émerge, il y a de moins en moins de gens dans l'agriculture, donc il faut que cette agriculture soit de plus en plus performante, parce que les jeunes aujourd'hui ne veulent pas revenir au mode de vie de leurs grands-parents.
Mais comment on fait, même avec une agriculture plus performante sur le continent africain, face aux règles du commerce mondial? Valentin Brochard, pour une ONG comme CCFD Terre Solidaire, la souveraineté alimentaire, ça veut dire quoi pour vous? Ça veut dire s'affranchir des géants de l'agroalimentaire sur un continent qui n'est pas très industrialisé comme l'Afrique? Ça veut dire revoir les fiscalités, les règles du commerce mondial, quand on voit que, par exemple, le lait en poudre est très peu fiscalisé parce que l'Afrique, de toute façon, n'en produit pas suffisamment, et qu'évidemment, ça dessert et ça plombe un peu plus les éleveurs qui produisent du lait, par exemple.
La souveraineté
et
alimentaire.
C'est la même chose pour le riz. Hein.
Oui, la souveraineté alimentaire, elle se décline à différents niveaux. Au niveau local, c'est relocaliser effectivement et reconstruire des systèmes alimentaires qui sont locaux, qui sont territorialisés. C'est-à-dire produire avant tout pour nourrir son pays, pour nourrir les citoyens, pour nourrir ses voisins immédiats. C'est penser en fait notre production agricole, notre production alimentaire sur une localité en fonction de notre capacité de production, mais aussi en fonction de celle des pays limitrophes ou des pays du continent. Mais ça demande, comme vous l'avez bien dit, effectivement, de repenser les règles du libre-échange et le fonctionnement de notre système alimentaire actuel qui fonctionne principalement autour de filières qui fonctionnent à flux tendu et qui dépendent de 6 ou 7 marchés internationaux des produits alimentaires. Actuellement, ces marchés internationaux de produits alimentaires sont totalement dérégulés. Ils sont une des causes principales de l'inflation alimentaire qu'on constate actuellement en France, mais qu'on constate partout dans le monde. Ça n'a pas attendu la guerre en Ukraine. Ça fait 5 ans qu'on voit un retour des spéculateurs de la faim de manière massive. Sur le marché de Paris, par exemple, il y a 3 ans, 70% des achats étaient faits par des commerçants, par des producteurs français, par des transformateurs, par des meuniers. Actuellement, en juin dernier, 80% des achats de blé sur le marché de Paris étaient le fait de spéculateurs, de banques d'investissement, de fonds d'investissement. Il y a une corrélation immédiate entre la spéculation sur les marchés internationaux et le prix de l'alimentation et le prix dans les assiettes. En France, en Afrique, en Asie, comme en Amérique latine. Si on veut atteindre une souveraineté alimentaire, si on veut réellement nourrir le monde, il faut clairement réformer les règles du libre-échange, il faut clairement réformer la façon dont fonctionne ces marchés internationaux et il faut encadrer les positions spéculatives.
Mais comment...
Je ne sais pas s'il y a de contribution. Rapidement, je pense que la petite agriculture pour l'Afrique reste une solution. Et cette solution, il faudrait lever les barrières ou les goulots d'étranglement. 70% de la production est assurée, 90% de la production, voire plus, est assurée par ces petits producteurs qui sont aussi bien des jeunes que des femmes. Et une des façons de réduire justement le taux élevé de personnes non employées, de chômage dans les zones rurales de ce continent passera par la petite agriculture. Un deuxième fait qui est important aussi à soulever, c'est que cette petite agriculture, elle se modernise. Elle se modernise, bien qu'elle soit soumise aux contraintes qui viennent d'être soulevées, notamment les questions liées au financement, mais aussi fondamentalement les questions liées à l'accès au marché, à la compétitivité des produits locaux comparés aux produits importés. Je vous donne un exemple
oui,
tout
c'est
simple.
Ça.
Le riz local produit au Sénégal ou en Côte d'Ivoire ou au Nigeria, ce riz local, là, vous l'achèterez, si je prends un prix moyen de la région, autour de 400 à 500 francs le kilo, et vous aurez le prix importé à 250 francs le kilo CFA, je vais dire. Donc, on est sur une situation d'inégalité importante et qui fait que la production agricole n'arrive pas à décoller. Troisième facteur qui est important de soutenir cette production agricole et cette petite agriculture, c'est de ne pas forcément voir la sécurité alimentaire uniquement sous l'angle de la production. Il faut aussi la voir sous l'angle de la transformation, oui. Il faut aussi la voir sous l'angle du pouvoir d'achat. Et pour la transformation en particulier, le soutien aux petites entreprises locales qui se développent, comme au Ghana, on a des exemples, qui transforment des produits alimentaires nutritifs et doivent être soutenus. Donc, on a aussi un rôle clé que le secteur privé doit jouer. On a un rôle clé que les banques doivent jouer pour assurer que cette petite agriculture, encore une fois de plus, qui est extrêmement importante pour le continent, pour éviter les erreurs qui ont été faites sur le modèle agricole de d'autres parties du monde, qu'on puisse avoir un soutien à cette petite production, à ces petits producteurs adaptés à leurs besoins.
Le CIB, merci de mettre l'accent aussi sur ces PME africaines extrêmement ingénieuses maintenant, qui sont à la fois des PME agricoles et agroalimentaires, qui parfois cherchent à maîtriser toute la chaîne de valeur. C'est le cas, on a donné la parole il n'y a pas longtemps dans notre émission, une PME sénégalaise comme ça, qui travaille avec des agricultrices et qui arrive à fournir directement des supermarchés en matière, en céréales notamment transformées. Ça peut être des bouillies pour bébé ou des choses comme ça, et notamment avec des céréales non importées, hein, et donc s'affranchir de l'inflation et de la folie des prix du blé. On peut dire aussi que, par exemple, la Côte d'Ivoire, je parle sous votre contrôle, Holocibe, mais est autosuffisante en poulet aujourd'hui. Ça veut dire que le marché du poulet est peut-être moins sous la pression des importations et des prix cassés.
Absolument. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire sont des pays aujourd'hui qui l'essentiel de la volaille et des œufs consommés sont produits localement.
Oui.
Sur les questions liées au commerce international en général, je pense aussi que l'Afrique a une opportunité avec l'accord sur le commerce ou le commerce en Afrique qui est une opportunité énorme. Et si vous prenez l'espace CEDEAO où il y a des règles de libre-échange qui ont été établies depuis plusieurs années maintenant, on a vu clairement que ces règles de libre-échange ont été extrêmement utiles pour les pays du Sahel en termes d'approvisionnement. Malheureusement, depuis la COVID, on a constaté beaucoup de barrières. Et ces barrières, maintenant, ont ralenti les mouvements des produits agricoles d'un pays à un autre. Bien sûr, il y a d'autres facteurs beaucoup plus structurels, comme les questions de transport qui d'un pays à un autre, sont encore difficiles. Mais le libre-échange, aussi les échanges entre pays africains, intra-africains, sont une solution importante. Et l'espace CEDEAO en a montré à travers le temps, l'exemple.
On arrive bientôt au terme de cette émission. Sylvie Brunel, géographe, je voudrais que vous nous rappeliez votre concept qui est fondé sur 10 P, hein, pour oui. faire fonctionner normalement, finalement, un système agricole, que ce soit sur le continent africain ou ailleurs.
Une bonne politique agricole, premier P, c'est une politique qui arrive à rémunérer dignement, donc par de bons prix, le producteur, tout en permettant à la nourriture d'être accessible aux consommateurs, notamment en ville. Elle passe par une performance. Alors la première performance, c'est d'abord qu'il faut qu'il y ait la paix, parce que quand il n'y a pas de paix, eh bien la guerre, le PAM le sait bien, c'est le premier facteur de la faim. Elle passe aussi par la recherche agronomique de bonnes plantes, parce qu'on ne peut pas continuer à produire avec des variétés. Il faut travailler en permanence sur des variétés qui permettent d'améliorer et qui soient adaptées aux situations locales. Elle passe par des pluies, et parfois les pluies sont de plus en plus erratiques avec le changement climatique, donc il faut penser aux puits, c'est-à-dire au stockage, à l'irrigation. Elle passe par la protection, on en a beaucoup parlé pendant cette émission, protection des paysans face à la concurrence déloyale, protection des récoltes face à la pression parasitaire, donc encore un P. Elle passe aussi par la propriété foncière, parce que comment voulez-vous investir sur une terre si vous n'êtes pas sécurisé sur cette terre? Et je crois que nous avons fait, et elle passe bien sûr par le paysan, parce que sans paysan, il n'est pas de planète. Et dans le monde entier, il faut que ces 10 P soient réunis. Ça se décline différemment en fonction des pays, mais quand on n'a pas ces 10 P, eh bien, on n'arrive pas à nourrir sereinement le monde. Et il faut bien considérer que l'agriculture, c'est une grande diversité de modèles. On a parlé, en France, on travaille beaucoup sur ce qu'on appelle les projets alimentaires de territoire, c'est-à-dire associer les différents modèles agricoles dans un souci d'indépendance alimentaire, d'autonomie alimentaire, de souveraineté alimentaire. Ça se décline partout différemment, mais c'est une vérité. Les paysans ont toutes les solutions pour sauver le monde, pour nous nourrir, pour réparer la planète, pour stocker le carbone. Mais il faut les respecter et les rémunérer dignement.
Oui. Alors quand même, les solutions face au réchauffement climatique, Valentin Brochard, l'ONG, votre ONG CCFD Terres Solidaires, travaille évidemment sur le sujet. C'est une question à la fois technique et humaine. Est-ce que les agriculteurs, qu'ils soient sur le continent africain et ailleurs d'ailleurs, sauront s'adapter au réchauffement climatique quand on voit les messages que j'ai lus tout au long de cette émission et les perturbations qui sont déjà tellement palpables ?
Oui, bien sûr. Heureusement, on sait s'adapter, on sait déjà, et je ne pense pas qu'il y a besoin de courir après telle ou telle innovation technologique pour transformer notre agriculture. Nous, au CCFD, on travaille dans plus de 70 pays avec des partenaires, des millions de partenaires un peu partout dans le monde, principalement agricoles. On est en subsidiarité, donc on est uniquement dans les soutiens, on ne leur impose pas des techniques, c'est vraiment eux qui les mettent en œuvre. Ce qu'on fait, c'est qu'on les met en réseau. Et ils sont en grande majorité en train de faire une transition agroécologique, c'est-à-dire qu'ils sont en grande majorité en train d'essayer de recentrer leur production sur des complémentarités entre élevage, entre plantes, sur une cessation de l'utilisation de pesticides ou d'intrants pour avoir une autonomie alimentaire. Sylvie Brunel en parlait concrètement. La capacité d'un paysan à se rémunérer est primordiale. Concrètement, si c'est un paysan qui est dépendant d'intrants, de semences, de pesticides qui vient de l'autre bout du monde, il y a une rentabilité financière qui est quand même assez compromise. Et ils sont en train de faire une transition pour reconstruire au niveau local des chaînes de valeur alimentaires, c'est-à-dire des systèmes de transformation, de consommation, qui ont des débouchés directement urbains. Et ce qu'on remarque, c'est que durant la période de Covid-19, mais actuellement aussi durant la période de flambée des prix que nous vivons, les organisations de producteurs, les coopératives qui avaient adopté en fait ce système de transition agroécologique sont plus résilients et arrivent mieux à générer des revenus que ceux qui sont dans une agriculture, qu'on va dire, dite conventionnelle ou industrielle, qui dépendent de chaînes de valeur internationales.
Merci à vous tous. Valentin Brochard, chargé de plaidoyer souveraineté alimentaire au CCFD Terres Solidaires. Merci à vous, Sylvie Brunel, géographe, Université Paris-Sorbonne. Vous avez notamment publié « Pourquoi les paysans vont sauver le monde » chez Buchet-Chastel. Et merci à vous, Olocib, d'avoir été en liaison avec nous de Dakar, conseiller régional senior pour le programme alimentaire mondial des Nations Unies. Demain, 8 milliards de voisins, suite de notre semaine spéciale. Sommes-nous trop nombreux pour, on a parlé de la sécurité, de l'habitat décent, c'était hier, de la faim aujourd'hui, et demain ce sera l'éducation. Sommes-nous trop nombreux pour aller tous à l'école? Que faire quand la démographie scolaire explose? Quels sont les atouts des jeunes, peu ou bien formés? Vos réactions et vos questions nous intéressent sur WhatsApp 33 7 64 45 51 41. On se quitte avec une petite dose de bonne humeur quand même. Pour la journée, je prends la confiance, Youssoufa.
Doucement, je prends la confiance. C'est You, c'est Deep, on vit nos best lives. Comme un self-made, on est les West Staff. Toujours clean class, c'est fait avec style. On s'amuse bien, mais on fait le taf. Faut pas oublier que tous méritent. Né pour briller, j'ai pris tous les risques. Pourtant, je chante pas de ou baby. Un peu comme Rima. Do maybe, j'rappe pour la famille, les gamins, les gamines. T'es tellement mon petit que ma mère, c'est ta mamie. Nous, on bouge ensemble comme les amis des amis. Les amis des amis, c'est aussi la famille. On réunit l'Afrique comme la canne. Le futur est qu'un fric, oh my god. Quand je fais le player, j'parle à mon fric. Quand je veux être un homme meilleur, j'parle à mon fils. Et j'suis du genre soupas, Tupac, coupable, Tupac. Jamais parlé Tupac, Africano Tupac, damn. Prends la confiance, on est ensemble, donc on prend la confiance. Hey, hey. Playlist dans un rêve de gamin, aucun doute n'existe. Pour tous les quartiers et toutes les villes, Sénégal, on a soulevé la coupe, baby. Que du love à chaque fois que j'ouvre la bouche, que du love, c'est pour ça que je touche la foule. Africain, on va tout prendre, coûte que coûte. Mama si, mama kosa, chaque coup, c'est You, c'est Deep, on vit nos best life. De vrai self-made, on est des West Af. Toujours clean class, c'est fait avec style. On s'amuse bien, mais on fait le taf. C'est You, c'est Deep, on vit nos best life. De vrai self-made, on est des West Af. Une classe est faite avec style. On s'amuse bien mais on fait le taf.
Merci à toute l'équipe qui prépare chaque jour cette émission. Damien Roucou, Zaina Badiallo, Divine Berthou, Romain Dubrac, Raphaël Lazizi. Nos émissions sont bien sûr à réécouter en podcast et en particulier notre semaine spéciale. 8 milliards, sommes-nous trop nombreux? N'oubliez pas aussi qu'on a changé de titre d'émission. Si vous nous cherchez sur les réseaux sociaux, il n'y a qu'un seul chiffre en fait qui change. C'est le 8, 8 milliards, RFI. C'est notre compte sur Instagram, sur Facebook et sur le compte WhatsApp. C'est toujours le même numéro pour se parler les voisins et les les voisines. Et vous savez qu'on aime bien prendre la température. Comment ça va chez vous? Quels sont les enjeux, les sujets qui vous intéressent? Allez, on reste en contact. 33 7 64 45 51 41 dans quelques secondes, le journal.